Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Excellente fin de matinée à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Radion pour un nouveau Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Au programme aujourd'hui, des conseils de lecture pour les vacances, des livres à glisser dans les valises pour se rendre à la montagne ou à la plage. Et nous serons dans un bon quart d'heure avec Cyril Lefebvre, libraire à Semur-en-Auxois, qui nous offrira une sélection de romans pour vous divertir et vous détendre cet été. Et tout de suite, en ligne avec nous, la créatrice et l'organisatrice d'un prestigieux salon en Bourgogne qui se tiendra samedi 25 et dimanche 26 septembre prochain au château du Clos de Vougeot, en Côte d'Or, entre Beaune et Dijon. Evelyne Philippe, bonjour.
Bonjour.
Alors, Evelyne Philippe, comment se présente l'organisation de la 14e édition de Livre en Vigne, qui aura bien lieu donc?
Oui, bien sûr. Nous restons toujours optimistes et nous l'avons été même en 2020, puisque nous avons eu la chance de faire vivre cette 13e édition. Bien sûr que les choses sont toujours encore un petit peu compliquées, le contexte n'est pas encore des plus favorables, mais nous restons et nous persistons et signons pour une 14e édition, et en nous disant que pour tout le monde, ça va être une belle occasion de se retrouver, un lieu de rencontre, et où je le pense, comme l'année dernière, tout le monde aura plaisir à encore une fois avoir des rencontres quelquefois improbables, mais en tous les cas à se retrouver, à se découvrir, puisque c'est avant tout l'objectif de cette fête du livre, et se faire plaisir et découvrir de très belles lectures.
Alors, quelles sont les informations sûres et certaines? Parce que bien sûr, tout n'est pas simple, vraisemblablement il y aura encore des conditions sanitaires à respecter, mais les écrivains seront bien au rendez-vous. Est-ce que, Evelyne Philippe, on a des noms d'écrivains qui, en tout cas, ont déjà répondu présent à cette 14e édition de Livre en Vigne?
Oui, tout à fait. Alors, bien entendu, vous imaginez bien qu'à cette date, on est en train de peaufiner, que la difficulté, sans doute, est liée aussi à certains événements qui n'ont pas pu voir le jour en 2020 et même au printemps 2021, qui ont essayé de se trouver une petite place à la rentrée. Donc, ça a compliqué un peu les choses parce que ça se télescope un petit peu et c'est une petite bataille pour avoir certains auteurs qui étaient soit programmés, soit un petit peu happés par ces organisateurs désireux d'organiser leur propre événement. Bon, c'est le jeu et la règle pour 2021. En attendant, bien entendu, j'avais aussi des engagements de la part d'auteurs fidèles qui ont une actualité, donc c'est un vrai plaisir que de les accueillir, comme Laurent Benegui ou Apli Tadger, ou bien d'autres auteurs comme Jean-Robert Pitt, bien sûr, parce que il arrive pour nous même avec un ouvrage complètement différent de ce qu'il a écrit sur le vin jusqu'à présent, par exemple. Nicolas Destiendorf sera des nôtres. Nous aurons aussi, et ce sera l'occasion, de belles rencontres débats, soit sur des sujets d'actualité, comme nous aimons aussi les proposer au public, soit sur des thèmes très précis d'histoire. Et en l'occurrence, nous aurons la présence de Patrice Duhamel et de Nathalie Saint-Cric, qui nous proposeront donc d'évoquer les grandes figures qui ont marqué ou qui marquent encore de façon très contemporaine l'histoire de la France. Donc ça sera assez éclectique comme nous le souhaitons pour que ça puisse répondre un peu à l'attente, aux besoins d'un large public qui s'intéresse tant aux fictions par les romans que aux récits historiques ou aux récits de vie. Je sais que c'est un sujet qui plaît beaucoup et là on ne sera pas en peine avec vraiment de belles histoires qui nous seront proposées, racontées par des auteurs. Alors tellement racontées qu'on aura bien sûr une lecture surprise, sans oublier que c'est l'année Napoléon, donc on n'y allait pas y échapper. On a quand même un petit clin d'œil avec Napoléon et le vin, puisqu'il aimait particulièrement le vin de Gevrey-Chambertin. Et donc, on va le retrouver dans le thème de notre grande dictée œnologique et encore une fois dans une lecture surprise. Et puisque c'est une surprise, je ne dévoilerai pas effectivement cette surprise. Voilà ce que je peux dire avec des auteurs historiens, des auteurs de polars, de premiers romans. Vous savez aussi notre attachement à mettre en scène ces auteurs qui se lancent dans l'écriture et à surtout les encourager à écrire. Et je crois qu'ils sont plus que jamais en demande. Donc là, j'ai de très belles propositions d'auteurs de premiers romans. Et on retrouvera effectivement notre Jean-Joseph Julot, par exemple, qui est quand même un grand défenseur de la langue française. Et il nous trouve en présidant cette dictée, en nous faisant l'honneur aussi et l'amitié de revenir présider la grande dictée. Que vous dire d'autre ? Il y a plein de noms. Dominique Bonnat, qui, certains s'en souviennent, a été une très belle présidente de Livre en Vigne. Et bien, elle nous revient comme invitée d'honneur, bien sûr. Autre invité d'honneur que j'ai plaisir à accueillir, Noël Châtelet, dont on connaît effectivement les ouvrages et qui vient avec un ouvrage particulièrement, très bel ouvrage, je dirais un bel ouvrage que le public saura apprécier, je crois. Mais nous aurons aussi la présence de, en principe, Alix de Saint-André, Aurélien Bélanger, Laure Gasparotto, Philippe Grimbert, enfin voilà, je ne vais pas pouvoir tous vous les citer. Laurent Benegui sera des nôtres, Jérôme Attal aussi, que nous retrouvons avec grand plaisir. Ça repasserait beaucoup de temps, mais il faut que je garde un petit peu la surprise quand même.
Tout à fait.
La surprise pour certains noms, voilà.
Et puis, des expositions prévues peut-être ? C'est un peu prématuré pour en parler ?
Non, enfin, j'ai en tête effectivement une très belle exposition photographique qui sera menée en collaboration avec la ville de Chalon, comme nous l'avons fait ces dernières années, parce que c'est un très beau partenariat avec la ville de Chalon qui s'implique aussi, alors en direction et tournée vers la thématique du vin. Mais une autre exposition qui se profile aussi en collaboration avec les éditions Glénat. Voilà ce que je peux dire pour les expositions. Ensuite, en ce qui concerne les animations, grâce au stand du Musée au Parc Alésia, on aura effectivement une animation particulière qui s'adresse à tout public et qui est aussi en lien avec la rénovation de ce beau musée. Et puis, la présence des musées de Besançon, ce qui me fait extrêmement plaisir d'avoir effectivement, non seulement à travers les auteurs, mais à travers les exposants ou les éditeurs, la présence de nos amis franc-comtois.
Très important. Alors, je rappelle que Livre en Vigne est la première fête du livre au cœur du vignoble bourguignon. Et donc, cette 14e édition, je rappelle, se tiendra donc samedi 25 et dimanche 26 septembre. Et puis, toujours des tables rondes, comme chaque année, où quelques auteurs sont sélectionnés et invités à présenter leurs livres. C'est bien cela, Evelyne Philippe ?
Oui, tout à fait. N'oublions surtout pas la thématique et j'ai la joie d'avoir eu la réponse de Dominique Loiseau qui a, je crois que la presse en fait l'écho en ce moment, écrit un très beau livre, La revanche d'une femme, et qui nous fait l'amitié de venir présenter cet ouvrage, par exemple.
Parfait. Donc finalement, tout s'annonce très bien, même si, chère Evelyne, beaucoup de travail, beaucoup de contacts pour rassembler tout le monde autour du livre et du vin.
Toujours, mais c'est la passion qui domine. On oublie les difficultés, les obstacles, on a nos petits coups de mou, mais la joie vraiment de créer, d'organiser et d'entendre, parce que c'est perceptible, le plaisir des auteurs qui répondent présents, ça c'est ce qui nous motive, bien sûr.
Alors n'oublions pas que pour suivre l'évolution de cette organisation et notamment pour retrouver les noms des écrivains invités, on peut se rendre sur le site internet Livre en Vigne. J'ai vu pour l'instant qu'il n'était pas encore tout à fait à jour, mais je pense qu'il le sera d'ici quelques semaines au fur et à mesure des avancées et des certitudes de la venue des invités.
Oui, absolument. On peut dire à partir de début juillet. Voilà. Et nous allons commencer à actualiser parce que, comme vous le dites très bien, il s'agit aussi d'être crédible et de ne pas avancer un certain nombre de noms sans être certain qu'ils aient confirmé leur participation. Mais je peux dire que nous allons pouvoir commencer à actualiser le site début juillet.
Parfait. Un grand merci, chère Evelyne Philippe, de nous avoir accordé un petit peu de temps cette fin de matinée sur Radion pour nous glisser des informations qui nous réjouissent.
C'est moi qui vous remercie. Je souhaite surtout qu'il y ait bon nombre d'auditeurs de tous les départements de la Bourgogne, de tous nos secteurs viticoles et autres. Je vous souhaite de nombreux à venir. Venez pour ces surprises, venez pour faire plaisir à vos enfants et venez pour le plaisir de la lecture.
Je rappelle donc qu'à l'instant, c'était Evelyne Philippe, créatrice et organisatrice donc de Livres en Vie, qui se tiendra les samedis 25 et dimanche 26 septembre prochain. On le rappelle, Evelyne, c'est au château du Clos de Vougeot, c'est en Côte d'Or, entre Beaune et Dijon. Là aussi, il y a des navettes pour aller au château, tout est prévu. Restauration aussi possible sur place?
Oui, tout à fait, et l'entrée est libre.
Et ça, c'est important, voilà, de le souligner. Un très bon congé de fin de semaine à vous, Evelyne. Et puis,
Merci. Je
laisse nos auditrices et auditeurs avec une petite pause musicale. On se retrouve dans une poignée de minutes avec le libraire Cyril Lefebvre qui, lui, nous fera partager ses coups de cœur pour vous permettre de ne pas bronzer idiot. À tout de suite.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Merci en cette fin de matinée d'être fidèle à Wagon Livre, l'émission littéraire de Radio. Et comme je l'avais annoncé au début de notre émission, nous sommes en compagnie de Cyril Lefebvre, que je suis très heureux de retrouver. Bonjour Cyril.
Bonjour Yannick.
Alors, Cyril Lefebvre, libraire en Côte d'Or, à Semur-en-Auxois, la librairie de La Poste. Cyril, la dernière fois que je t'ai convié devant le micro de Wagon Livre, c'était avec l'ancien éditeur des éditions de l'Armançon, Gérard Gauthier, et puis Jean Perrin. Jean Perrin, merci pour la bande dessinée, projet que tu as initié, bande dessinée qui raconte l'histoire de cette belle cité médiévale qu'est Semur-en-Auxois. C'est peut-être d'ailleurs l'occasion au mois de juillet de découvrir Semur. Et puis les curieux peuvent se rendre à ta librairie pour se procurer cette très belle bande dessinée dont nous avions parlé au printemps sur Radion dans Wagon Livre. Alors, je te remercie Cyril d'être en cette fin de matinée devant le micro de Wagon Livre. Je t'ai demandé de nous offrir une petite sélection d'ouvrages que tu as lus et pour lesquels tu as un vrai coup de cœur. Ce sont aussi des conseils, des recommandations que nos auditrices et auditeurs peuvent suivre pour ne pas bronzer idiot cet été.
Oui, tout à fait. J'ai donc fait une sélection de quatre livres qui ont tous un rapport avec la région, avec la Bourgogne. Il y a un livre qui est en auto-édition et puis trois autres livres qui sont dans des grandes maisons d'édition nationaux. Dans des grandes maisons et puis qui sont distribués sur le territoire de la France entière. Quoi. Voilà. Donc le premier livre que j'ai sélectionné, ça s'appelle « Les saisons de Solange ».« Les saisons de Solange » qui est écrit par Jean-Louis Fèvre. Jean-Louis Fèvre qui avait eu en plus le prix, avec ce livre, le prix du Morvan en 2018. Le prix du Morvan est donné tous les deux ans. C'est un prix important, le prix du Morvan. C'est quand même le prix du parc du Morvan. C'est
tout à fait.
Un très beau prix. Le roman de Jean-Louis Fèvre parle du retour de soldats après la guerre de 14-18. Et puis à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de psychologues, ça n'existait pas. Et les soldats rentrent, il est accompagné par un de ses copains d'armée. Lui, il s'arrête dans le Morvan à Ligny. Son copain va un peu plus loin, dans le Périgord ou dans le Béarn, je ne sais plus exactement. Et c'est vraiment l'histoire de ces gens qui rentrent chez eux, dans leur ferme, et qui vont avoir des difficultés à se réaliser. Intégrés du fait qu'ils ont connu des atrocités et c'est compliqué quoi, parce que comme je disais il n'y a pas de psychologue, il n'y a que le gros rouge quoi, hein, et voilà, et y a toute une histoire et sa femme elle va, qui l'aime énormément, sa femme va essayer de le soutenir et de le garder le plus longtemps possible en bonne forme. Et puis je ne peux pas tout vous dire, mais la suite de l'histoire à découvrir dans le livre de Jean-Louis Fèvre, Les saisons de Solange.
Et donc Jean-Louis Fèvre qui habite dans la Nièvre, je crois pas très loin du lac des Sétons, me semble-t-il.
Voilà, il habite à Aligny en Morvan, un tout petit village à côté, un tout petit hameau même, on peut dire, puisqu'il doit y avoir trois maisons à côté d'Aligny en Morvan, entre pas loin sur la route du lac des Sétons.
Et j'en profite pour rappeler que Jean Genet, enfant de l'assistance publique, a passé une partie de son enfance dans une famille de paysans morvandiaux à Aligny, en Morvan. Je crois qu'il y a maintenant une plaque sur la maison où l'écrivain Jean Genet a passé une partie de son enfance. Et puis il y a aussi à Aligny, en Morvan, le musée des nourrices.
Le musée des nourrices, voilà. Oui, avec des auteurs qui sont, je sais plus, j'ai plus leur nom en tête, mais qui ont écrit beaucoup sur les nourrices du Morvan.
Oui, alors je pense aussi à Noël Renaud.
Voilà, c'est ça, Noël Renaud. Voilà.
Et qui, effectivement, est même dans l'espace hexagonal devenue une spécialiste sur les nourrices. Je crois qu'elle en a fini avec les nourrices. Elle me l'avait dit l'année dernière lorsque nous nous étions rencontrés à Saint-André-en-Morvan, le petit village du Morvan qu'elle habite avec son mari Philippe Berthe Langereau, qui est aussi
un écrivain
qui a énormément travaillé sur le Morvan, les traditions, mais aussi surtout les outils des paysans morvandiaux sur les moulins. Enfin, c'est vraiment un couple qui a donné un rayonnement historique, intellectuel au Morvan, parmi d'autres, parce que...
Oui, il y a beaucoup d'auteurs qui habitent le Morvan. On pourrait en citer, sans réfléchir, une dizaine très rapidement. Oui, ça c'est clair. Ouais.
Alors, et ils font bien mentir le fameux proverbe qui dit que du Morvan ne vient ni bon vent, ni bonne gens. Donc, on rappelle le titre du roman de Jean-Louis Fèvre, Cyril.
Alors, « Les saisons de Solange ».
et qu'on peut se procurer, entre autres, à la librairie de La Poste à Semur en Aussois.
Oui.
On passe peut-être à une autre sélection,
un roman qui est sorti il y a quelques années, mais que j'ai trouvé très bon. J'ai énormément apprécié ce livre. C'est La vie rêvée de Gabrielle, écrit par Liliane Mosca. Donc Gabrielle, qui était donc la muse de Renoir, qui a eu une vie exceptionnelle, parce qu'elle était au tout départ une petite fille de paysan, de petit paysan, du côté des Soies, entre Châtillon-sur-Seine et Troyes. Et vraiment, Gabrielle, elle a une vie exceptionnelle, je dirais, pour son époque. Elle a connu Auguste Renoir, elle est devenue son modèle. Elle a été la nourrice de Jean Renoir, le cinéaste, et puis de Pierre Renoir, l'acteur de cinéma. Quoi.
Oui. Voilà. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est un roman vrai de Liliane Mosca, donc c'est aux Presses de la Cité.
Presses de la Cité.
Et ce qui est merveilleux aussi, alors j'avais reçu Liliane Mosca pour ce roman il y a quelques années, effectivement, mais c'est un livre qui est toujours disponible dans la collection Terre de France. Ce qui est merveilleux, c'est que cette petite paysanne de Champagne va grandir à Paris, elle rentre dans un univers effectivement d'artistes, de peintres, grâce à Renoir, dont elle est d'abord la bonne, ensuite effectivement elle devient le modèle, parce que c'est une jolie femme. Oui. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'ensuite elle connaîtra le grand amour avec un richissime Américain, et elle mourra aux États-Unis. Donc c'est La vie rêvée de Gabrielle, sous-titrée Muse des Renoirs, sous la plume de Liliane Mosca, qui d'ailleurs a été l'invité d'honneur du salon de Luxeuil-les-Bains qui s'est tenu il y a quelques semaines maintenant.
Oui, c'était le 13 juin. Elle était marraine du salon du livre de Luxeuil-les-Bains dans l'abbaye de Saint-Colomban. C'était vraiment un endroit magnifique et avec un monde intéressant, important et une sélection d'auteurs très intéressante et surtout toujours dans le même titre avec des gens principalement de notre région, la Bourgogne-Franche-Comté.
Il faut dire aussi, Cyril, qu'on a été privé de salon l'année dernière. Là, c'est un peu la renaissance. Je rappelle d'ailleurs que ce samedi à Autun, l'association Lire en Pays Autunois organise un salon à un peu moins de 30 auteurs, mais qui sont rassemblés à Autun en plein air. Et c'est vrai qu'on a été privé de salons, de rencontres et de dédicaces cette épidémie.
On a été tous privés, mais de toutes les manifestations, pas forcément que du livre, on a été vraiment sevrés. Donc profitons-en quand c'est ouvert, allons à la rencontre des auteurs, allons à la rencontre des livres, et puis faisons le plein également pour cet été.
Alors Cyril Lefebvre qui est aujourd'hui devant le micro de Wagon Livre, Cyril, les auteurs bourguignons t'apprécient énormément parce que ils le disent avec gratitude, tu défends beaucoup les auteurs du terroir, les bourguignons. Bien sûr, tu aimes les livres, mais tu as un attachement très fort, notamment pour un Jean-Louis Fèvre qui est dans l'auto-édition, ou pour des bourguignons qui publient leurs livres dans diverses maisons et qui viennent d'horizons divers. Tu es un grand défenseur des auteurs bourguignons. Or, on a le sentiment quand même que les libraires préfèrent mettre en avant les livres qui vont, si je peux me permettre l'expression, se vendre comme des petits pains. Pour aussi, bon, une librairie, c'est un commerce, il faut gagner sa vie, c'est pas toujours facile.
Oui, tout à fait. Alors, de toute façon, c'est pas parce qu'on aime beaucoup les auteurs bourguignons que je peux pas vendre aussi les autres auteurs. Dans ma librairie, je vends de tout. Je vends pas forcément les livres que j'aime, parce que si je vendais que les livres que j'aime, ça serait pas bien facile. Mais faut reconnaître que autant des livres d'envergure, de grande envergure, tout le monde peut les vendre. Les livres régionaux, tout le monde ne peut pas les vendre parce que déjà, il faut aimer les auteurs, il faut les connaître. Il faut aussi aimer son terroir, il faut aimer sa région. Et vrai, c'est vrai que j'aime beaucoup la région Bourgogne et même maintenant la région Bourgogne-Franche-Comté parce qu'il y a des très bons auteurs également en Franche-Comté. Et le fait de mettre en avant notre patrimoine, eh bien, ça fait aussi venir certaines personnes en voyage. village, en villégiature chez nous. Et tout ce qui peut permettre de faire connaître davantage notre région, eh ben, je les aide de ma façon, à ma façon, à moi.
Alors je ne dis pas cela pour te flatter, c'est tout simplement parce que c'est un souci de vérité. Tu es libraire, tu as été auteur aussi, parce que tu as commis un livre sur le lac de Pont aux éditions de l'Armançon, alors maison d'édition bourguignonne malheureusement disparue. Tu as initié le projet de bande dessinée qui a vu le jour, donc bande dessinée historique sur l'histoire de ta ville de cœur, Semur en Aussois. Tu es aussi organisateur d'un salon du livre qui va se tenir le dimanche 15 août prochain. Alors, bien sûr, ça concerne les Côtes d'Orien et puis pourquoi pas celles et ceux qui peut-être se trouveraient en Bourgogne à cette date-là.
Oui, alors j'organise un salon du livre le dimanche 15 août au lac de Pont, commune de Pont-et-Massène, à 3 km de Semur en Auxois, à 7 km de la sortie d'autoroute Biarritz-Mur. Donc le 15 août, déjà c'est le plein boom, hein, c'est les grandes vacances, c'est le moment où il y a le plus de vacanciers. J'espère que ça va faire plaisir aux vacanciers de venir faire un salon du livre, alors qu'il n'y a jamais eu véritablement de salon du livre dans le... Sur le secteur de Semur en Auxois. Il y a un salon de la bande dessinée, certes, mais un vrai salon du livre, il n'y en a jamais eu. C'est une première pour notre canton, pour notre haute département, pour les terres d'Auxois, tout simplement. Et j'espère que le public sera présent. On va faire en sorte de que tout le monde vienne. Et puis, voilà. Donc, il y aura une quinzaine d'auteurs. Entre autres dans les auteurs qui sont connus au niveau plutôt national, on aura des Liliane Mosca, bien sûr, on aura des Didier Cornaille, un grand défenseur du Morvan et de notre région. Et si tout le monde mettait autant d'ardeur que lui à parler de la Bourgogne, ça serait merveilleux, quoi. Il y aura des auteurs semurois, il y aura trois auteurs semurois, il y aura également Sandra Amani qui nous parle beaucoup des légendes, du Morvan, des choses comme ceci. Et puis il y aura des auteurs pour les enfants, Céline Audran. Et puis il y a quelqu'un à qui je voudrais faire un petit clin d'œil en particulier, c'est Pascal Comer. Pascal Comer, qui écrit beaucoup de livres de poésie, qui habite à Marigny-le-Caouet, pas très loin de Semur en Auxois, une dizaine de kilomètres, et qui est édité aux Belles Lettres. Et vraiment, c'est très très rare quand il sort, et je suis très content qu'il soit là.
Oui, les éditions Les Belles Lettres, effectivement, c'est une référence intellectuelle prestigieuse en France.
Oui, déjà, oui. Et puis, ses écrits le méritent. Voilà.
Alors, où va se tenir le salon? C'est dans une salle? C'est en plein air? Plein air, c'est...
Alors non,
c'est délicat, on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'un orage.
Non, oui, tout à fait. Je ne prends pas de risque avec les livres, le papier et l'eau, ça ne va pas bien ensemble. À la salle des fêtes sur la commune de Pont-et-Massène, au lac de Pont, c'est à 50 mètres de la plage du lac de Pont. Donc pourquoi je l'ai fait ici? Parce que c'est plus facile d'aller à la rencontre des gens quand ils sont déjà sur place que de vouloir les faire venir dans un endroit. Donc je sais que de toute façon, il y a du monde à Pont tous les dimanches, pendant les grandes vacances, et surtout le 15 août, le jour du 15 août, il y aura forcément du monde à Pont. Il fera forcément beau, parce qu'au 15 août, il fait toujours beau, et on croise les doigts pour qu'il fasse beau. Et puis, voilà, donc il y a un grand parking, on pourra se garer très facilement. Il y aura des auteurs, il y aura également des peintres qui vont exposer. Je profite de que les peintres soient là pour faire un parcours pour justement pour les mesures sanitaires. Donc ça sera délimité par des grilles, par des panneaux, par des peintures, et on pourra voir des peintres qui vont vous proposer pour un des œuvres des marines, des peintures marines pour un. C'est donc Monsieur Valère Belmaire. Et puis il y aura André Gaillard qui va proposer également des peintures plutôt abstraites. Et un autre peintre, mais que je ne peux pas encore donner le nom tout de suite parce qu'il ne m'a pas encore confirmé tout à fait sa présence, mais il y a 9 chances sur 10 qu'il soit présent.
Alors bravo pour cette belle initiative, donc ce Salon du Livre au Lac de Pont, le dimanche 15 août prochain. Pour ne pas bronzer idiot, la plage n'est pas loin et on souhaite plein succès à cette manifestation. Merci Cyril pour ces informations, tu restes avec nous, on va marquer un autre intermède musical à bord de Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radio. Nous revenons juste après la virgule musicale que nous vous proposons.
C'est le jour où l'été est arrivé, le jour où nous avons rangé nos ratés, comme l'on jette parfois du mobilier abîmé. On a déposé notre amour sur un trottoir du quartier. Alors sans cri, nous avons ri, comme pour courir le bruit de nos sanglots. Timidement, on s'est dit, restons amis, comme si c'était beau. Pourtant, c'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de rose, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour. C'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de rose, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre. C'est le jour où nous sommes sortis du rêve avant la fin, comme si l'on avait peur qu'il ne finisse pas bien. C'est le jour où, au fond de moi, j'ai espéré que notre adieu dise à demain. Comme un accord stupide, on s'est promis qu'on s'appellerait encore, qu'on se dirait bonne nuit. Malgré la solitude des matins, des réveils froids, on ne regretterait rien. Pourtant, c'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de rose, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour. C'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de rose, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nous sommes toujours avec Cyril Lefebvre, libraire en Côte d'Or, très précisément à Semur en Aussois, une cité de caractère, une belle cité médiévale qui va sans doute voir défiler cet été de nombreux touristes. En tout cas, n'hésitez pas à aller rendre visite à Cyril. Et puis, je me permets d'insister parce que je trouve qu'elle est remarquable. Pourquoi pas aussi se procurer la bande dessinée historique qui raconte de sa création mythologique jusqu'aux années récentes, hein, contemporaines, l'histoire de cette cité qui a vu les épidémies, les incendies, mais et qui a vu aussi naître de grandes figures intellectuelles et défiler de grandes personnalités. Cyril, je te redonne la parole, bien sûr, pour nous présenter deux autres ouvrages. Pardon. Alors, le premier, c'est un roman que je te laisse le soin de nous présenter.
Alors, le troisième livre, c'est un livre de Guy Bollet, qui est originaire de Dole, en Franche-Comté. Donc, le titre de son livre, c'est « Quand Dieu boxait en amateur ». Donc, Guy Bollet, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de manger avec lui, et je trouve que l'homme est exceptionnel. L'homme, il a tout fait, il a été funambule, il a fait du cinéma, il a fait de la musique, il a écrit des chansons, et à chaque fois qu'il s'essaie à quelque chose, à chaque fois c'est une véritable réussite. Et là, il a écrit donc trois livres. Le premier était Le Fils du Feu, le second est Quand Dieu boxait en amateur, et puis un troisième qui est un peu plus sur Pierre Michon. Donc voilà. Donc par contre, donc dans Quand Dieu boxait en amateur, c'est un roman, c'est l'histoire d'une personne qui est très amie avec un copain à lui qui devient curé. Lui, il est maréchal Ferrand. Ils sont tous les deux très copains. Ils vivent ensemble, même s'il y en a un qui croit en Dieu puis pas l'autre. Mais voilà, c'est très bien. C'est très bien écrit, avec un vrai vocabulaire, avec des vrais mots. Ce qui m'a le plus choqué dans ce livre-là, enfin, choqué en bien et en très bien même, c'est qu'il y a des mots de plusieurs syllabes, quoi. C'est vraiment un livre avec un vocabulaire, une grammaire impeccable et avec une histoire qui est vraiment très bonne, qui tient la route. Je veux dire qu'il n'y a pas une fausse note dans ce livre.
Inspiré aussi de la vie du père du romancier.
Alors, inspiré, juste inspiré, parce que, bon, il y a des choses
qui sont... Il y a beaucoup de fiction, voilà.
Il y a de la fiction, c'est très romancé, mais oui, il y a une certaine inspiration de son père, oui.
Alors, ce que je propose, c'est de lire les toutes premières pages de ce roman à nos auditrices et auditeurs, les premières pages, donc, du roman de Guy Bollet, « Quand Dieu boxait en amateur ».
Besançon est une petite ville de l'est de la France qui, sous ses airs de ne pas y toucher, n'en est pas moins capitale de la Franche-Comté et de l'horlogerie, préfecture du Doubs, chef-lieu d'un arrondissement composé de 13 cantons et de 311 communes, ville natale de Victor Hugo et des Frères Lumière, mais aussi, excusez du peu, capitale de l'ancienne Séquanie, connue alors sous le nom latin de Vesontio, cité qui fut, en cette époque barbare, une ville pilote d'envergure puisqu'elle possédait déjà, bien avant l'invention du tourisme, un sens inné de l'hospitalité. Des hordes d'envahisseurs portant la hache, la masse d'armes ou l'espingole en guise de caméscope la visitaient régulièrement et laissaient, dans le gris bleu de ses pierres, stigmatisées, gravées, burinées ou ciselées, quelques indices de leur passage qui constituent ce que l'on nomme en une formule quelque peu pompeuse la longue et douloureuse histoire de la cité. Plaquée au creux d'une cuvette naturelle, comme l'est une pâte feuilletée dans le fond d'un moule à tarte, la ville est close par un couvercle caparaçonné de toits ocre, aux tuiles serrées et aux cheminées hautes, que maintiennent et soutiennent des maisons relativement basses habitées par d'honnêtes commerçants, des pharmaciens aisés, plus ou moins bovaristes, de respectables docteurs et d'éminents notaires, sans omettre, bien sûr, militaires et curés, qui occupaient jadis casernes et églises, leurs bâtisses imposantes, obstruant encore, à ce jour, la partie la plus antique et dénommée romaine de la susdite cuvette. Un fleuve en forme de lyre, le Doubs, sertit comme un bijou ce bouclier de toitures et d'âmes subséquemment nommées centre-ville où grouillent, jours fériés et chômés, des badauds dont l'activité maîtresse consiste à arpenter les deux ou trois rues commerçantes et à s'extasier devant leurs luxuriantes vitrines, aquarium du désir frustré ou des chaussures neuves, poissons de cuir inertes sur fond de velours rouge, se contemplent par paires dans le blanc des œillets. Quelques ponts, dont les ingénieurs, respectant le cahier des charges, ont privilégié la robustesse au détriment de l'esthétique, permettent de traverser le fleuve et d'accéder aux quartiers périphériques qui, s'éloignant progressivement de l'épicentre, vont du plus huppé au plus populaire. C'est précisément dans l'un de ces quartiers d'ultime catégorie que nous nous trouvons actuellement, un peu plus haut que la gare Viotte, entre la cité des Orchamps et la cité des Parcs, à la frontière du quartier des Chaprais et du Dépôt, loin des vitrines et des godasses, loin des rupins et des bourgeois, des militaires et des vicaires, en bordure d'une espèce de no man's land formé par un amas de traverses, de hangars et de rotondes, où sont entreposées les locomotives qui ne roulent pas et celles qui ne roulent plus. Au pied de ces ferrailles aux ronces entrelacées, s'élève un bâtiment trapu et court sur pattes qui fut jadis coquet et que tous appelaient l'hôpital du quartier. On y faisait de tout, deuil et maternité. C'est là qu'il vit le jour, René Bollet, mon père, le 3 mai 1926, entre les rails et les wagons, les tenders et les tampons, dans les panaches bleutées de leurs lourdes bousines aux déchirants sifflets. Ce quartier fut toute sa vie, sa seule map monde, sa scène de théâtre, son unique opéra. Il y grandit, s'y maria, procréa, ne l'aurait pas quitté pour toutes les mers du globe et leurs îles enchantées. Il y passa sa vie de forgeron. Y aima l'enclume, la boxe et l'opérette, et le théâtre par-dessus tout. Fidèle à ses amours, attaché à sa terre, aux pierres et aux amis, aux fumées qui mouraient et aux rails qui rouillaient, il rendit l'âme le 8 octobre 1999 dans ce lieu ferroviaire où le destin la lui avait offerte, l'hôpital du quartier. Ce dernier avait beaucoup vieilli. Mon père aussi. Ils étaient quittes. Toujours est-il, pierres ou chairs délabrées, qu'il mourut dans le même bâtiment que celui qu'il avait enfanté, et si l'on en croit les indications inscrites dans le livret d'état civil, presque à la même heure. Distance entre le lieu de sa naissance et celui de sa mort, 3 étages.
Je viens donc de vous lire le début du roman de Guy Bollet, roman intitulé « Quand Dieu boxait en amateur » et qui est disponible aux éditions Grasset et qui est coup de cœur de notre ami libraire Cyril Lefebvre qui est aujourd'hui en notre compagnie. On va faire une petite escale en musique et en chanson et on revient juste après. Je vous rappelle que c'est Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Seul, loin au large, de part au finot.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Mon cher Cyril, alors, un autre coup de cœur à glisser dans cette émission, un roman, une fois de plus. Je te laisse un peu nous en parler. Apparemment, tu en es sorti complètement envoûté.
Oui, complètement. Donc, le dernier roman que j'ai choisi aujourd'hui, ça s'appelle La Cuillère. La Cuillère est un livre de Dany Héricourt qui est aux éditions Liana Lévy, une belle maison également d'édition. Ça s'appelle donc La Cuillère. C'est un premier roman. C'est un premier roman pour cette personne-là qui s'était essayé à certaines petites choses déjà avant, mais pas dans le milieu du roman. Et j'ai trouvé ce livre très agréable à lire, très facile, très il coule de source. C'est vraiment un livre qui est très reposant, très, très agréable à lire pendant les vacances.
Quoi. Alors, de quoi s'agit-il, Cyril, pour nous mettre un peu en appétit?
Alors, La Cuillère, tout simplement, eh bien, c'est la petite fille, la fille qui s'appelle Sérène. Et alors, ça commence mal.
Ça commence par le décès du père.
Ça commence par le décès de son père. Et son père est dans sa chambre. Et sur la table de nuit, à côté, il y a une cuillère. Et sur cette cuillère, elle est intriguée parce qu'elle voit des armes, parce que son père tenait un restaurant, son grand-père tenait un restaurant. Et elle n'a jamais vu cette cuillère-là dans le restaurant. Et elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce dessin? Et sur ce dessin, quand elle regarde bien, eh bien, on voit les armeries du chevalier du Tastevin, quoi. Et les armes de la Bourgogne, quoi. Et elle cherche pour savoir comment que cette cuillère, qu'est-ce qu'elle fait là, cette cuillère? Qu'est-ce qu'elle fait là? Et donc, elle prend sa voiture. Alors, ça se passe à notre époque. Hein, c'est un truc...
L'action démarre au Pays de Galles.
Voilà. Ça se passe à notre époque. L'hôtel se passe au Pays de Galles. Et elle prend sa grosse Volvo, comme il est marqué dans le bouquin, avec une conduite à droite. Quoi, hein. Et puis, elle vient en France. Elle traverse et elle vient jusqu'en Bourgogne, où là, elle va faire tout un parcours où elle va chercher à savoir... Qu'est-ce que c'est que ces armeries? Qu'est-ce que c'est que cette cuillère? Et vraiment, on est pris par le fil du livre et ça a été difficile pour moi de le lâcher.
Oui. Il faut dire que l'héroïne Sérène, bon, apprend le français, donc oui. Elle mêle l'utile à l'agréable, mais ce qui est merveilleux, c'est qu'elle veut connaître l'origine de cette cuillère. D'ailleurs, juste tout petit paragraphe au début, j'ai pas lu le roman en entier, Cyril, hein, c'est toi-même, tu me l'as conseillé, je l'ai feuilleté, je n'en ai lu que les 15 premières pages, mais il y a ce paragraphe que je trouve très, très intéressant parce qu'il nous concerne toutes et tous. Dans cette nuit où personne ne dort, donc c'est Sérène qui parle, je réalise que nous vivons entourés de choses auxquelles nous n'accordons aucune importance jusqu'à ce qu'elles disparaissent, se cassent ou se révèlent sous une lumière nouvelle. Et je trouve, en tout cas de ce que j'ai pu lire le début, c'est cet attachement à un objet anodin, si ce n'est qu'il est, au niveau esthétique, il a une marque, une originalité, mais ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher l'histoire des objets. Et c'est très intéressant. Nous avons tous des objets fétiches auxquels nous sommes attachés. Et je trouve ça merveilleux. En tout cas, effectivement, le début du roman est prometteur, même si l'ambiance commence par le deuil du père.
Oui, mais ça dure très peu de temps. Hein, c'est juste les deux, trois premières pages. Et puis ensuite, il y a tout... C'est comme un jeu de piste après, hein. C'est une enquête, c'est un jeu de piste.
Et elle sillonne la Bourgogne, puisqu'elle est tantôt du côté de Beaune, on la retrouve un temps à Avallon, il y a une petite étape à Autun. Oui. C'est effectivement un roman qui permet de s'évader aux côtés d'une Britannique et de sa cuillère et qui en cherche l'histoire et l'origine dans une France qui reste un superbe pays.
Oui, tout à fait. Et puis en plus, elle parle de tous les villages, de belles villes de notre Bourgogne, quoi. Avallon, Autun. Autun, c'est quand même une très belle ville bourguignonne également. Voilà, quoi. Donc, moi, j'ai eu vraiment un coup de cœur vraiment important pour ce dernier ouvrage qui était... qui vient de sortir en plus, qui est très bien.
Voilà, on en rappelle le titre.
La Cuillère de Dany Héricourt aux éditions Liana Lévy.
Merci beaucoup, Cyril, d'avoir été avec nous en cette fin de matinée sur Radio N pour nous livrer tes coups de cœur, des conseils de lecture. Comment se porte le monde de la librairie à Semur en Aussois? Les clients sont au rendez-vous parce que de nombreux points de vente disparaissent. Est-ce qu'être libraire aujourd'hui, c'est une réalité difficile?
C'est un combat, oui. Ça a été difficile. On a été fermé quand même pas mal de temps ces derniers mois, même si les gens ont beaucoup lu, parce que de toute façon, on ne pouvait pas faire d'autres animations que la lecture. Hein. On ne pouvait pas aller au cinéma, on ne pouvait pas aller au restaurant, on ne pouvait rien faire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a lu. Donc, forcément, oui. Alors, est-ce que tous les livres qui ont été lus en ont profité aux libraires? Ça, c'est un autre problème, c'est une autre réflexion qu'il faudrait avoir, mais l'un dans l'autre, oui, les Français ont beaucoup lu de romans d'évasion, je dirais, hein, des romans qui avaient une connotation très gaie quand même. Ça, je me suis aperçu de cela. On lisait beaucoup plus de choses, de livres avec de l'aventure, beaucoup plus de terroirs, de choses comme ça. Oui, c'est vrai. Maintenant, les livres qui étaient beaucoup plus sur l'actualité, les livres qui étaient...
Les livres politiques, les essais...
Des drames comme on peut en connaître, où les gens racontent leurs histoires, pas forcément gaies, pas forcément faciles. J'en ai moins vendu, oui, parce qu'on avait envie d'autre chose.
Il y avait un besoin de sourire, de joie, voilà. D'évasion, oui. D'ailleurs, d'exotisme, d'aventure, pour sortir un peu de la morosité d'une crise qui effectivement a plombé de nombreuses professions, hein, tout de même, disons-le. Enfin, les répercussions sont peut-être encore à venir. Nous, on a essayé d'apporter un petit peu de couleur à travers cet éventail de livres que tu as eu la gentillesse de nous présenter au micro. Bel été à toi, Cyril, et très bon salon au Lac de Pont le dimanche 15 août prochain.
Merci Yannick, et bien bon été également à toi, bonnes vacances Cyril. Également, même si toi dans ton travail tu vas être bien occupé pendant les grandes vacances.
Je le crains.
Voilà, et puis si le 15 août tu as le temps et que le cœur t'en dit, tu es le bienvenu.
Je l'espère, merci encore Cyril, on marque un nouvel intermède musical et on se retrouve juste après, toujours pour Wagon Livre, l'émission littéraire de Radio N.
De revoir cet endroit, chaque année en l'état, le plongeoir tout là-bas, et le sable de 5A, les gouttes d'eau et les carreaux. Cette image ne change pas. La même plage et toi de dos, dans le même contre-jour, le même cadre, la même photo, et quelques gens. Laisse entrer l'air.
Le grand air que l'on inspire, que l'on espère faire trembler les cloisons. Et souffler sur les bouts de verre, nos griffures et nos vieux cotillons. Et souffler sur la poussière, les points d'usure, quand l'amour tourne en rond. Laissons grand ouvert et laissons venir la cinquième saison. Laissons entrer l'air et laissons venir la cinquième saison. Laissons grand ouvert et laissons venir la cinquième saison. Laissons entrer l'air et laissons venir la cinquième saison.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
À l'instant, c'était Ours avec son titre La cinquième saison sur Radio. Notre Wagon Livre touche bientôt à sa fin. Avant de nous séparer, je voudrais juste mentionner un ouvrage écrit par Olivier Gay et paru aux éditions de l'Observatoire. Cet ouvrage a pour titre Une passion absurde et dévorante, écrit sur le football. Un livre qui peut intéresser les passionnés de football et pas seulement en cette période dingue et passionnée et passionnante de l'Euro de football. D'ailleurs, l'auteur, Olivier Gay, a reçu le prix Renaudot 2017 pour la disparition de Joseph Mengele et il est également l'auteur d'un éloge de l'esquive. Et donc, il publie ses écrits sur le football, un livre qui rassemble des textes parus dans la presse et un essai aussi sur le football argentin. Et d'ailleurs, Olivier Gay cite Borges qui disait que le football est populaire parce que la stupidité est populaire. Voilà, c'est donc Une passion absurde et dévorante, écrit sur le football d'Olivier Gay aux éditions de l'Observatoire et disponible bien évidemment dans toutes les librairies. Le salon Lire sous les tilleuls organisé par l'association Lire en pays autunois a commencé il y a maintenant plus d'une heure et demie. Il se tient aujourd'hui à Autun jusqu'à 18h, terrasse de l'Europe, en plein air sous les arbres, des livres, des auteurs, des dédicaces. Parmi les auteurs présents, Ludivine Bantini, Yann Manoc, l'ancien juge Renaud Van Ruinbeck, Aurélien Bélanger, Éric Foissier et puis également des auteurs bourguignons. Ils sont 25 et ils vous attendent. Donc à Autun, terrasse de l'Europe, une manifestation qui a retenu cette année pour thème l'histoire et qui, je le répète, est organisée par les bénévoles de l'association Lire en pays autunois, que je salue très chaleureusement. Je vous retrouve samedi prochain, toujours à 11h sur Radion 90.5 dans Lyon et aux quatre coins de la Bourgogne via internet sur radion.fr. Vous pouvez retrouver cette émission à l'écoute sur yannickpetit.fr ainsi que toutes les émissions Wagon Livre diffusées sur l'antenne de Radion depuis novembre 2010. Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir et à samedi prochain.